Cette conférence, la dernière de notre cycle, est très directement inspirée d'une communication donnée lors du colloque sur l'histoire de la ville de Gap et de ses territoires organisée par la Société d'études des Hautes-Alpes. Les actes sont en cours de publication, très probablement en tout début d'année 2016. La décennie 1960 marque pour le diocèse de Gap un changement profond. En 1961, Mgr Georges Jacot succède à Mgr Auguste Calixte Bonnabel sur le siège de Gap. Mgr Bonnabel était au plus haut niveau de responsabilité du diocèse depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Il était évêque depuis 1932. L'élan de l'époque, avec le Concile Vatican II, qui se déroule de 1962 à 1965, donc le Concile de Vatican II notamment, cet élan de l'époque se traduit pour l'Église de l'ère gapençaise par la création de deux nouvelles paroisses, Saint-Roch et Notre-Dame d'Espérance. Une troisième, je cite, vers l'Adré, route de Vennes, et je cite là l'évêque de l'époque, Mgr Goffi, est aussi envisagée sans concrétisation cependant. Ces fondations répondent au thème de la session des prêtres du diocèse en novembre 1965 sur l'insertion de l'Église au cœur du territoire et de ses habitants, de la vie et de l'économie. En outre, elles renforcent le caractère de centre-ville des deux paroisses historiques, la paroisse de Saint-André-les-Cordeliers, comme nous l'appelons aujourd'hui, et la paroisse de la cathédrale. Le statut paroissial de la cathédrale est renforcée quand l'évêque la sépare du chapitre en 1968. 50 ans après ce que je viens de vous présenter, en 2011 précisément, Mgr Jean-Michel Di Falco Leandri, évêque de Gap et d'Embrun, érige une nouvelle paroisse pour les 13 clochers du Cap-Ancet au terme d'une réflexion qui est officialisée dès 2004, c'est-à-dire un an après son arrivée. Eh bien, est-ce que cela signifie au regard des sources paroissiales et diocésaines que l'élan missionnaire est brisé? Ou au contraire, ces changements montrent-ils que l'Église gapençaise, portion de l'Église universelle, s'adapte aux réalités géographiques, politiques, pensons par exemple à l'intercommunalité, et démographique et prend en compte la réalité de l'espace de la mission, ce qui est également une citation de l'évêque, en 2007, au moment de la clôture de la démarche synodale qui a eu lieu entre 2005 et 2007. Et qu'est-ce qu'une paroisse, à la fois dans l'Église universelle et dans les territoires gapençais? L'histoire des curés qu'a dirigé Nicole Lemaître et que j'ai déjà cité dans ce cycle de conférences précise que depuis les 4e et 5e siècles, le choix d'une définition prioritairement territoriale de la charge des âmes par l'Église d'Occident marque profondément encore notre vieille Europe. Il faut bien dire que cette charge des âmes, c'est la cure, le curé est chargé des âmes de la paroisse, cette charge des âmes n'est pas faite de la même manière dans l'Église d'Orient ou dans les églises d'Orient. En 1917, le premier code de droit canonique définit la paroisse comme une division du diocèse en parties territoriales distinctes auxquelles on assignera une église propre et un groupe déterminé de fidèles qui recevront pour le soin nécessaire des âmes un recteur particulier en qualité de propre pasteur, autrement dit un curé. Cette définition vient du livre de Kanz qui analyse Adrien Kanz, qui analyse le code de droit canonique, un commentaire succinct et pratique à destination des séminaristes, très probablement en priorité dans les années 1930. Les paroisses personnelles sont également définies dans ce code de 1917. Elles sont définies par leurs paroissiens qui ne sont non pas attachés à un territoire, sinon qu'ils doivent être de la même cité. Cette notion de cité est évidemment très marquante dans l'Église d'Occident. Le code de 1983, donc celui qui est actuellement en vigueur, précise que les paroisses personnelles sont déterminées par le rite, la langue, la nationalité des fidèles d'un territoire. Quant à la paroisse en général, elle est définie comme la communauté précise de fidèles qui est constituée de manière stable dans l'Église particulière et dont la charge pastorale est confiée au curé. L'évêque du diocèse érige, supprime ou modifie les paroisses. Nous sommes là dans les codes de droit canonique de 1983, au canon 518 ou au canon 515. Le synode diocésain, donc arrivons-en aux normes diocésaines, en 1921, le synode qui se tient à Notre-Dame-du-Lot divise le diocèse en deux archidiaconés, dont celui de Saint-Arnoux de Gap. Cet archidiaconé compte 13 archiprêtrés, dont ceux de Gap, de la Bâtie-Neuve, de Tallard, de Vennes. Il est entendu, mais c'est uniquement implicite, que les paroisses composent les archiprêtrés. Après le synode de 1960, le diocèse comprend 12 doyennés qui composent 5 zones pastorales ou archiprêtrés. L'archiprêtré de Gap regroupe les deux doyennés de la ville et de sa campagne et le doyenné de la Durance. La paroisse n'est pas définie, mais les dispositions concernant le curé se trouvent aux articles 82 à 92 des statuts synodaux en référence aux canons 451 et 470 du Code de droit canonique de 1917, alors en vigueur. Mais à quoi sert une paroisse ? Dans une analyse de l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi du pape Paul VI, la quinzaine religieuse, qui est l'organe officiel du diocèse, écrit que la paroisse reste nécessaire pour accueillir et sacramentaliser la masse des chrétiens. Pour Jean-Paul II, la paroisse est aussi un lieu naturel où l'Église est visible. Enfin, dans les propositions issues du synode romain sur la nouvelle évangélisation en octobre 2012, les pères synodaux affirment que la paroisse continue d'être la principale présence de l'Église dans les quartiers, le lieu et l'instrument de la vie chrétienne. Alors, là, nous avons des analyses romaines, le pape Paul VI, Jean-Paul II qui parle aux évêques, puisque c'était au cours d'une visite ad limina des évêques de l'Est de la France, le synode romain sur la nouvelle évangélisation, tout ça, ce sont des paroles romaines. En 1966, les abbés Jean-Baptiste Brochier et Joseph Richard, dit du Chamblot, écrivaient dans Semaine Hautes-Alpes, la paroisse, c'est Jésus-Christ qui nous sauve, c'est dans la paroisse que je reçois la parole de Dieu, les sacrements, ma parole, c'est là où je vis ma foi. Et le père Bruno Belmont, toujours dans Semaine Hautes-Alpes, dans un article qui est signé par Marie Domarc, la cathédrale Le Cœur de la ville, le père Bruno Belmont pense que la paroisse doit accueillir, particulièrement dans les grands moments de la vie, l'Eucharistie, le mariage ou l'enterrement pour les familles. La cathédrale de Gap, la paroisse de la cathédrale de Gap est évidemment au cœur de la ville, car avant la création de Saint-Roch et de Notre-Dame d'Espérance, la zone urbaine de Gap ne compte que deux paroisses, dont la principale est celle-ci de Notre-Dame de l'Assomption et Saint-Arnoux, celle de la cathédrale. Même si cette cathédrale couvre également une vaste portion de territoire rural. L'église cathédrale est aussi celle du chapitre depuis le XIXe siècle. L'action de l'abbé Paul Chevalier, curé de 1956 à 1965 à la cathédrale, est décrite comme celle d'un animateur d'équipe composé de prêtres et de laïcs. Alors, est-ce qu'il faut rappeler ici qu'il a confié à des paroissiens les salles de cinéma que nous connaissons sous les noms du Club et du Centre, par exemple ? Deux raisons principales conduisent Mgr Robert Coffi, qui est évêque dès 1967 et jusqu'en 1974, qui sera ensuite cardinal archevêque de Marseille. Mgr Coffi, donc, est conduit à modifier le statut de la cathédrale par un décret 2 semaines après la création de la paroisse Saint-Roch. Tout d'abord, il y a le motu proprio Ecclesiae Sanctae, texte pontifical de 1966, qui pose le principe de la séparation des chapitres et des paroisses. La seconde raison est la nouvelle répartition des paroisses à Gap et le rôle de modérateur de l'équipe sacerdotale de la ville, qu'a le curé de la cathédrale, le père Justin Vernet, donc, à l'époque. La date du 11 octobre 1968, donc, la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption à Gap, qui était unie au chapitre de la cathédrale de Gap, en est désormais séparée, selon les termes du décret épiscopal publié dans la quinzaine religieuse. En outre, la cathédrale marque le territoire par le bâtiment. Elle est un atout touristique et patrimonial, au même titre que l'hôtel de ville, par exemple. Et ça, c'est précisément cité dans le plan d'équipement touristique des Hautes-Alpes publié en 1961, un plan touristique des Hautes-Alpes qui est publié sous l'égide de la préfecture des Hautes-Alpes. C'est un programme quadriennal entre 1962 et 1966. Cette place centrale est célébrée en 1995 avec le centenaire de l'édifice actuel. Monseigneur Georges Lagrange, évêque du diocèse de 1988 à 2003, rappelle alors que, je cite, « la cathédrale est un lieu symbolique de l'église locale, lieu des grands rassemblements où s'exprime la vie ». Ce centenaire est également le grand événement du diocèse, c'est également une citation pour l'année 1995. Le mensuel diocésain Église de Gap reprend un texte de Mgr Tena Garriga Pérez, évêque auxiliaire de Barcelone et paru précédemment dans Documents Episcopat. La cathédrale doit se manifester comme une maison ouverte, accueillante et témoin, aussi bien pour les habitants de la cité que pour les touristes. Et ce texte, vous le retrouvez à la fois dans Documents Episcopat en mars 1995 et dans Église de Gap en juillet-août 1995. Et donc, il y a à Gap des paroisses et des églises nouvelles créées dans les années 1960-70. Car comment nier en France que dans le cadre de l'urbanisme moderne et de l'aménagement en cours du territoire, la question de l'équipement cultuel des nouveaux grands ensembles et des villes satellites ne soit une donnée importante d'intérêt général, demande Semaine Hautes-Alpes en 1966, en pensant bien entendu à la départementalisation nouvelle autour de Paris, à la création de villes nouvelles entre Lyon et Grenoble. Et c'est donc l'air du temps, autrement dit l'élan de l'époque, pour reprendre les termes de l'introduction, qui pousse l'Église à réfléchir à ses paroisses nouvelles. Car, soucieux de la rapide extension de la ville dans les années 1960, bien entendu, l'abbé Paul Chevalier prépare la création d'une nouvelle paroisse au sud de la ville, dit Église de Gap, en juillet-août 1996. Parmi les témoins de cette urbanisation à Gap, les quatre rues nouvellement nommées en 1963, rue des Fauvettes, rue des Hirondelles, rue des Mésanges et rue des Rossignols, ce sont de jolis noms de rues de lotissement. Autre témoin, l'Assemblée générale constitutive de l'Association familiale des quartiers de Saint-Roch et de Font-Rennes, le 26 novembre 1967, soit quelques jours après la pose de la première pierre de l'église Saint-Roch. Il est également significatif de noter que les élections cantonales de mars 1970 voient l'ouverture de deux nouveaux bureaux de vote, le premier au groupe scolaire de Saint-Roch, le second à l'école communale de la place du Rochasson, donc du côté de Notre-Dame d'Espérance. Après le lotissement du Rochasson, créé formellement en 1924 mais qui essaimera surtout dans les années 50-60-70, c'est entre autres le sujet de l'article et de la contribution de Paul Wagner à ce colloque que je citais en introduction. En 1968, c'est une citation, Gap se développe principalement dans deux directions, vers Embrun avec sa zone industrielle, vers le sud-ouest et Talard par sa banlieue résidentielle, et les quartiers de Belle Oreille et de Font-Rennes étant privilégiés dans cette description due à Huguette Vivian dans son ouvrage Gap et sa campagne, contribution à l'étude du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Gap, publié par la Direction départementale de l'agriculture des Hautes-Alpes et l'Institut de géographie alpine en 1972, l'Institut de géographie alpine qui est attaché à l'Université de Grenoble. Il convenait donc pour l'Église, je cite, d'apporter à un quartier en pleine explosion démographique l'indispensable présence spirituelle, pour reprendre les termes de Jacques Savoie dans Semaine Hautes-Alpes de 1968. La première pierre est donc posée par Mgr Coffi le 5 novembre 1967, nous y faisions allusion tout à l'heure. La quinzaine religieuse insiste par deux fois sur la place de la communauté locale. Parce que cette première pierre marque bien le point de départ d'une nouvelle cellule de l'Église, d'une nouvelle communauté chrétienne. Un parchemin est béni par l'évêque et scellé dans la première pierre. Il rappelle dans son texte le rôle dans la construction de 29 membres originaires du quartier. Si on veut les retrouver, il faut démolir l'église. L'architecte du bâtiment est Pierre Genton. L'église est bénie le 29 septembre 1968. Son coût estimé est de 600 000 francs, financé en partie par souscription. Je dis bien en partie. En 1983, donc, la paroisse paye encore une annuité de 20 000 francs pour le remboursement de l'emprunt contracté pour la construction de l'église. Celle-ci est voulue sans vitrail ni cloche. Elle est d'une capacité de 500 personnes avec des salles de catéchisme situées dans un quartier où le nombre des enfants de moins de 12 ans est à l'époque évalué à 1200 et surtout ce chiffre de 1200 est significatif de l'ampleur que l'on imagine à la vie paroissiale. Suite à l'installation d'un hôtel fixe dans l'église, cette église Saint-Roch est consacrée le 28 septembre 2008 par Mgr Jean-Michel Di Falco Leandri. Alors que, à la même époque, les jalons de la grande paroisse du Gaponçais sont déjà posés. Au Rochasson, l'extension du quartier est également un argument pour la création du secteur paroissial. Pensons par exemple à la cité scolaire de jeunes filles de Gap, faisant face au lycée Aristide Briand, dont parle Marcel Barrès en 1968 dans Semaine Hautes-Alpes. Le père Marcel Brochier est le premier responsable du secteur en juillet 1969. Il est rejoint par l'abbé Christinel qui célèbre le 5 août 1969 dans une chapelle provisoire dont il a dirigé l'édification par des bénévoles. Le bâtiment de l'église Notre-Dame d'Espérance se veut simple et fonctionnel afin que les chrétiens puissent vivre en communauté à échelle humaine. Son coût est estimé à 300 000 francs, donc moitié moins que Saint-Roch. Les vitraux sont réalisés par Mademoiselle Gras du Pouette. L'orgue est inauguré un an après l'église, le 14 décembre 1971. L'église est consacrée, je cite, selon le rite habituel, le 20 décembre 1970. Ce n'est donc pas une simple bénédiction, contrairement à ce qui s'était passé 2 ans avant à Saint-Roch. J'évoquais tout à l'heure la définition des paroisses personnelles. Il y a en effet à Gap des communautés particulières et une paroisse notamment personnelle destinée, je cite le décret qui la crée, qui l'érige, à tous les Italiens résidant de fait dans le diocèse et leurs descendants au premier degré en ligne directe, même s'ils ont acquis la nationalité française par naturalisation. Elle est créée donc par Mgr Jacquot le 3 mai 1962. Et cette paroisse italienne s'étend aussi au diocèse de Digne. En mars 1964, la quinzaine religieuse souligne la difficulté que représente la dispersion de la communauté paroissiale. Si, jusqu'à aujourd'hui, des messes sont célébrées pour la communauté italophone, il s'agit en réalité de la seule véritable activité paroissiale avec tel ou tel pèlerinage. Gap, il est vrai, est alors le siège d'un vice-consulat d'Italie, situé impasse de Beaune. Un arbre de Noël y est organisé en 1969. La population active italienne dans le département en 1968 est, si l'on en croit les chiffres publiés dans Alpes et Midi, de 1661 personnes, dont 1442 dans les métiers du bâtiment et 219 dans le secteur agricole. Et si vous faites l'addition des deux, cela donne bien le chiffre premier que je vous ai donné, 1661, plus précisément le premier chiffre que je vous ai donné tout à l'heure de 1661. Il existe aussi une association chrétienne des travailleurs italiens dont les nouveaux locaux sont inaugurés en janvier 1971. La communauté polonaise bénéficie également de la célébration d'une messe périodiquement depuis plusieurs années. L'autre particularisme du diocèse se trouve dans la place accordée à la tradition liturgique. Une messe est célébrée le 11 mai 1986 par l'abbé Choulot à Tallard avec la bienveillance du maire Claude Bonnet, mais à l'insu du curé, le père Roger Davin, ce qui pousse l'évêque à une mise au point publique. Monseigneur Raymond Segui, qui est donc l'évêque de l'époque, entre 1981 et 1987, rappelle que cette célébration de Tallard n'est pas autorisée par l'évêque, qu'une messe Saint-Pie-V est célébrée au sexe par l'abbé Paul Chalmet, mais l'évêque ne le cite pas, et qu'une messe avec chant grégorien a lieu tous les dimanches à Saint-André de Gap. La situation perdurera à Tallard jusqu'en 1989, selon les archives de la paroisse, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mandat municipal. Monseigneur Georges Lagrange est nommé évêque de Gap le 11 juillet 1988 et a ordonné à cette charge le 18 septembre 1988 à Notre-Dame-du-Lot par le cardinal Hyacinthe Thiandoum, archevêque de Dakar. Église de Gap publie le communiqué des présidents des conférences épiscopales de Suisse, d'Allemagne fédérale et de France sur les ordinations du 30 juin, ordination de 4 nouveaux évêques par Mgr Marcel Lefebvre, ordination qui ouvre le schisme lefebvriste après 25 ans de tensions post-conciliaires. Le 2 juillet 1988, en réaction à ces ordinations, le pape Jean-Paul II publie un motu proprio, donc un texte législatif, sous le titre « Ecclesia Dei afflicta ». S'appuyant sur ce texte, et c'est là une ligne de force de son épiscopat, Mgr Lagrange donne aux fidèles qui le souhaitent la possibilité de participer à l'Eucharistie suivant le Missel romain de 1962, je cite, dans le but de faciliter la communion ecclésiale dans l'église de Châteauvieux, mais cela se fait pas sans polémique. C'est ensuite à Chauvet que sera localisée cette célébration hebdomadaire. L'autre dimension gapençaise de la tradition se trouve chez les chanoines de la Mère de Dieu qui ont vécu aux 5 heures de Marie dans les années 1990. La première mention conséquente qui les concerne dans le mensuel diocésain date de mai 1997. Le texte présente leur spiritualité, mais en réalité ne dit rien de précis sur leur lien avec la ville, sinon la phrase suivante. Vous pourrez la juger bien légère, je cite « Voici donc la vie que nous menons au cœur de la ville ». Monseigneur Lagrange accorde à ce lieu devenu abbaye la possibilité d'y célébrer selon le Missel romain de 1962, comme à Chauvet, comme au prieuré de la Sainte-Face à Châteauville-Vieille et à l'abbaye de Rosan. Les chanoines de la Mère de Dieu quittent Gap en 2004, les chanoinesses en 2008. C'est cet héritage que rappelle Mgr Jean-Michel Di Falco Leandri dans un courrier adressé aux prêtres et diacres après le motu proprio de Benoît XVI du 11 juillet 2007 sous le titre « Summorum Pontificum ». Le texte du souverain pontife définit le rite romain comme pouvant être célébré sous une forme ordinaire ou une forme extraordinaire. C'est donc, selon ces termes qui est nommé au 1er novembre 2008, un chapelain au service de la communauté, attaché à la forme extraordinaire du rite romain. Cette communauté prend le nom de Saint-Pie-V. Selon le code de droit canonique, le chapelain est le prêtre à qui est confié de façon stable la charge pastorale d'une communauté ou d'un groupe particulier de fidèles. Cette définition diffère donc, bien entendu, de celle de la paroisse personnelle. L'affaire des propos de Mgr Richard Williamson, l'un des 4 évêques lefebvristes, remettant en cause l'historicité de la Shoah, permet à Mgr Di Falco de faire publiquement la part entre les tenants de l'intégrisme à visée politique et les fidèles de l'Église attachés à une forme liturgique. L'unité de la communauté paroissiale du centre-ville et de la communauté Saint-Pie-V est montré alors concrètement le 4 octobre 2009 par une journée commune d'ouverture du 8e centenaire de la Fondation des Franciscains. On le voit, il y a donc ces communautés, il y a les deux paroisses historiques auxquelles il faut bien entendu ajouter d'autres paroisses du Gapençais, pensons par exemple à Sainte-Marguerite, et dans le même temps, il y a cette réflexion, cette longue marche de Saint-Arnoult, sais-je noter en titre, pour le Gapençais. La volonté d'une unité d'action pastorale pour la ville de Gap est en réalité contemporaine de la création des paroisses Saint-Roch et Notre-Dame d'Espérance. Autrement dit, il n'y a pas de temps, la création de paroisses nouvelles, puis 50 ans après, parce qu'on se dit « ça marche pas » ou parce qu'on n'a plus les forces, on va fusionner tout ça. Non, il y a, en même temps que la création des paroisses Saint-Roch et Notre-Dame, une réflexion pour l'unité d'action pastorale, et c'est ainsi que le curé de la cathédrale, nommé en 1965, qui était l'un des deux vicaires généraux, l'abbé Justin Vernet, est curé archiprêtre de la cathédrale, avec la mission particulière de coordonner toute la pastorale sur le territoire de la ville de Gap, dit sa nomination publiée dans la quinzaine religieuse de juillet 1965. En juillet 1969, et voilà, nous allons prendre un bol d'air de l'époque et de son jargon, Monseigneur Robert Coffi charge le père Louis Barnot de la paroisse Saint-André et lui confie le secteur du Rochasson. Et il confie le secteur du Rochasson au père Marcel Brochier avec mission d'y créer un centre pastoral. Et ceci dans le cadre de, je cite, l'unité pastorale de base pour l'ensemble de la ville de Gap. L'unité pastorale de base ou unité pastorale nouvelle est une notion théorisée par l'Assemblée évêque-prêtre tenue à Lourdes en novembre 1969. Ce n'est pas une paroisse, ce n'est pas un regroupement de paroisses, ce n'est pas une partie de la paroisse, non, c'est une unité, c'est un ensemble qui forme une unité sur laquelle on peut mener une action pastorale à la base, pour reprendre, paraphraser cette théorie. Elle prendra assez vite d'ailleurs le titre, le nom d'unité pastorale nouvelle. Mais la viabilité de cette sectorisation fait l'objet d'interrogations dès 1971. Ces interrogations sont renouvelées souvent, par exemple lors d'un conseil presbytéral en mars 1986. Le travail en doyenné s'intensifie dans la seconde moitié des années 1980. En novembre 1988 paraît le premier numéro de Vie chrétienne à Gap, écho des équipes chrétiennes de Gap au-delà des limites des paroisses, groupes ou mouvements. Ce même numéro annonce la création d'un conseil pastoral unique pour le doyenné. Et de nouveau, en 2008, sera créé un conseil pastoral de doyenné. Dans Vie chrétienne à Gap, chaque paroisse est présentée dans le numéro de la présentation de Rambaud et de la Bativieille est commune. Parce que le cas de ces deux paroisses répond pragmatiquement à une question ponctuelle, le père Bernard Lagarrigue était curé des deux paroisses de 1982 à 1989, mais, pour des raisons de santé, ne pouvait y assurer la totalité de son service. Et je cite Semaine Hautes-Alpes, il en a beaucoup souffert, mais il a fait du même coup quelque chose de formidable en faisant prendre leurs responsabilités à ces deux paroisses qui ne font maintenant plus qu'une seule communauté. Et 20 ans plus tard, cette communauté de Rambaud et de la Bativieille est intégrée à la paroisse Saint-Arnoult pour le Gapençais, alors que l'on aurait absolument pu imaginer que la Bativieille en soit exclu parce qu'on pourrait l'imaginer appartenant à un secteur, par exemple celui de la bâtie neuve. Après l'épiscopat de Mgr Lagrange, qui a duré 15 ans, l'arrivée de Mgr Jean-Michel Di Falco Leandri en 2003 entraîne dès l'année suivante de profondes mutations que nous pouvons répertorier en trois catégories. Tout d'abord dans les structures. Les vicaires épiscopaux disparaissent, ce qui renforce par là même le rôle des doyens. Les doyennés sont recomposés avec une seule circonscription pour tout le Gapençais, qui comprend notamment la Fraissinouse, Pelletier et Neff. Deuxième type de profonde mutation dans les attributions des prêtres. Le père Jean-Michel Bardet est nommé curé de la cathédrale. Et puis, troisième type de mutation, la réflexion elle-même sur, je cite, la restructuration des paroisses de Gap et des communes environnantes qui est inscrite dans les nominations, c'est-à-dire dans un texte officiel émanant de l'évêque. L'étape suivante se situe lors de la démarche synodale entamée en octobre 2005. En mars 2007, Mgr Rouet, Albert Rouet, qui est évêque de Poitiers, présente l'expérience de la superposition des communautés ecclésiales locales sur les paroisses de son diocèse dans deux conférences, l'une donnée à Gap et l'autre à Guillestre. Quelques mois plus tard, au mois d'octobre, les orientations de cette démarche synodale sont proclamées par Mgr Di Falco à Notre-Dame-du-Lot, alors non pas au mois d'octobre, mais en mai, pardon, au mois de mai 2007. Il nous faut d'abord, je cite l'évêque, il nous faut d'abord prendre en compte la réalité de l'espace de la mission et réfléchir aux nominations en fonction de cette réalité. De nombreux diocèses ont créé de nouvelles paroisses. Il nous faut à notre tour réfléchir à la définition de nos espaces pastoraux. Et là, il faut bien noter le changement de vocabulaire. Là où les prédécesseurs de Mgr Di Falco évoquaient la disparition de petites paroisses ou la suppression canonique de celles-ci, Mgr Di Falco parle de création d'une nouvelle paroisse et de la définition d'espaces pastoraux. Il y a donc d'un vocabulaire négatif, le passage à un vocabulaire positif. D'une suppression, on passe à la création. En février 2010, le doyenné du Gapençais est présenté par le mensuel diocésain dans un dossier montrant un an avant l'érection de la nouvelle paroisse, une étape intermédiaire où de 13 clochers naissent 8 pôles communautaires. L'heure n'est donc plus alors au constat, mais aux perspectives. Le diocèse devrait vivre dans 10 ans avec 9 ou 10 prêtres en activité, dit Église, dit vie chrétienne en Gapençais, la feuille paroissiale qui était distribuée à l'époque toutes les 2 semaines. Début 2011, un séminariste du diocèse de Gap précise alors le cadre des réflexions. Le système géographique et la fixité de la délimitation des paroisses ne fonctionnent que difficilement aujourd'hui et ne fonctionneront plus demain. Eh bien, il nous faut saisir cette réalité pour ne pas subir l'avenir. La création de pôles spirituels est une perspective qui répond à la mobilité contemporaine, au nécessaire besoin de repenser un découpage des secteurs pastoraux, autant qu'à la nécessité de responsabiliser les chrétiens adultes, autrement dit les laïcs. Et ces mots sont contemporains de ceux de Mgr Di Falco, qui propose la création de pôles adaptés à, je cite, la situation particulière de notre diocèse, et ceci se trouve dans l'état des lieux du diocèse, publié en 2011. La stratégie de communication, puisqu'il s'agit bien de cela, montre aussi une convergence des réflexions, non sans résistance et critique, au cœur de la vie ecclésiale gapençaise, pour reprendre les termes de vie chrétienne en gapençais, du 7 août 2011. Cette APAC, le 24 avril 2011, qu'entre en vigueur le décret épiscopal supprimant les 13 anciennes paroisses. Chacune des églises reste église de la nouvelle paroisse Saint-Arnoux. Au même moment, s'ouvre la maison paroissiale de la place Saint-Arnoux en mai 2011. Elle est aussi le lieu de résidence des prêtres pour une vie sacerdotale et fraternelle, pour reprendre les termes de vie chrétienne en gapençais. Enfin, je souligne que les anciennes paroisses de Pelletier et de la Frayssinous sont intégrées à Saint-Arnoux pour le gapençais. Au civil, ces communes composent avec Gap, au début 2013, l'embryon d'intercommunalité autour du chef-lieu du département. Alors, que conclure de tout cela ? Dans l'état des lieux du diocèse, paru en 2011, à quelques semaines de la création de la paroisse Saint-Arnoux, Mgr Di Falco évoque 8 pôles paroissiaux, lieux de célébration, de ressourcement et de formation, adapté à la situation particulière du diocèse. La paroisse Saint-Arnoux de Gap est manifestement l'un de ses pôles. La situation de l'Église catholique n'est pas unique dans les Hautes-Alpes. En effet, l'année 2012 a été marquée par le développement de 2 projets de lieux de culte pour les musulmans de la ville. À la fin de 2011, la paroisse gapençaise de l'Église protestante unie, pour utiliser la nouvelle terminologie, lance une réflexion sur une étude de remplacement partiel ou total des bâtiments qu'elle possède avant d'opter pour la rénovation de l'existant. Autrement dit, l'enjeu, nous le voyons bien, est pour chaque confession, sa visibilité dans le paysage de la ville, tout en répondant aux réalités économiques, démographiques, sociologiques, y compris au cœur de ses dynamiques propres.